La tête au carré. La tête. L'actualité. L'actualité des sciences sur France Inter.
La vision et les troubles neurovisuels, c'est donc le dossier de la tête au carré cet après-midi avec mon invité, la neuropsychologue Sylvie Chocron. Et vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions sur le site de l'émission franceinter.fr. On vous invite à l'occasion du démarrage d'une consultation pour les bébés, vous allez nous en parler. Et justement, avant d'évoquer ces troubles neurovisuels, Sylvie Chocron, et donc du développement de l'enfant qui en découle, j'aimerais qu'on s'arrête quand même un instant sur ce sens de premier plan qu'est la vision. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'un de vos premiers livres, « Comment voyons-nous ?» aux éditions du Pommier, dans la collection Les Petites Pommes du Savoir, où vous expliquez exactement comment tout cela fonctionne. Alors, c'est un sens évidemment très très important, parce que la plupart des informations que nous recevons de l'extérieur passent avant tout par l'œil.
Exactement, donc la vision a ceci de magique qu'on peut ouvrir les yeux et prendre connaissance en une fraction de seconde de tout le monde qui nous entoure. Et ce sens est tellement magique qu'on a souvent l'impression qu'il est extrêmement simple et que, en quelque sorte, notre œil prend une photographie du monde extérieur et puis l'analyse immédiatement et nous donne comme ça accès à ce qui est présent tout autour de nous. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque si effectivement l'œil photographie ou reçoit une image du monde extérieur, cette image va être totalement déconstruite à la sortie de la rétine et elle va transiter sous forme d'un flux électrique, donc totalement virtuel, jusqu'au cerveau. Et là, la tâche du cerveau va être de reconstruire l'image qui avait été projetée sur la rétine. Et donc, la tâche difficile du cerveau, c'est de nous faire croire en quelques centaines de millisecondes que lorsque nous ouvrons les yeux, nous voyons. En réalité, le cerveau a dû reconstruire toute la scène visuelle à partir d'une information électrique, ce qui veut donc dire que l'œil tout seul ne suffit pas à voir, et que par ailleurs, si le cerveau a reçu une mauvaise information électrique, s'il en manque une partie, s'il y a des distorsions, ou si lui-même ne fonctionne pas comme il devrait, ce que nous aurons devant les yeux ne correspondra pas à la réalité extérieure. Donc je pense que le premier prérequis, lorsqu'on parle de vision, c'est de réaliser que ce que nous avons devant les yeux n'est pas le monde extérieur, mais c'est une construction par notre cerveau des informations qu'il a reçues à partir de la rétine, ce qui est complètement différent.
Oui, puisque en cas de défaillant, justement, le cerveau peut modifier la vision, précisément.
Alors, voilà, d'une part, si le cerveau dysfonctionne, l'image que vous aurez devant les yeux ne correspond pas à celle qui s'est projetée sur la rétine. Donc, en quelque sorte, ce que vous voyez n'est pas la réalité. Par ailleurs, qui dit rôle du cerveau dans la vision dit aussi apprentissage. Et donc, forcément, on sait maintenant qu'on apprend à voir.
Ah oui, on ne voit pas de façon innée, alors il faut un apprentissage.
Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Les bébés ont une forme de vision, même si elle est relativement...
Comment ça se passe d'ailleurs à la naissance? Qu'est-ce qu'ils voient exactement ces bébés?
Alors, on a longtemps cru que les bébés étaient aveugles à la naissance, et donc la plupart des mamans ont entendu des personnes plus âgées leur dire que non, elles avaient l'illusion que leur bébé les voyait, mais qu'en réalité, ils étaient aveugles. Alors, il y avait tout un tas d'histoires à ce sujet, que les bébés commençaient à voir à 40 jours, qu'ils étaient aveugles jusque là, etc. Alors, on sait maintenant que les bébés voient à la naissance. Alors, même si leur acuité visuelle est plus faible, parce qu'elle va se développer au cours du temps, on sait qu'à la naissance, ils ont quand même un dixième d'acuité visuelle. On a 10 dixièmes à l'âge adulte, à l'état normal.
C'est pas si mal.
Un dixième, c'est pas si mal, vous diront les personnes qui ont cette acuité visuelle-là.
C'est une vie en flou?
Alors, la vision du nourrisson, elle a une moins bonne précision, puisqu'effectivement l'acuité visuelle est plus basse. Elle a aussi une moins grande étendue, parce que le champ visuel n'a pas la taille qu'il aura. Donc, à partir d'un an, le champ visuel du bébé ressemble à celui de l'adulte, c'est-à-dire à peu près 180 degrés au total, 90 degrés à gauche et à droite. Chez le nourrisson, il est à peu près de 40 à 60 degrés, ce qui suffit néanmoins, puisqu'on sait qu'à la distance d'un bras, à 57 cm, 1 cm égale 1 degré. Donc vous imaginez que ça permet de voir un écran de 40 cm environ devant soi, donc c'est pas négligeable. Donc les nourrissons voient, avec une faible acuité certes, avec un champ visuel plus petit certes, mais ils sont surtout attirés par des stimuli très contrastés, en mouvement, et présenté à une distance efficace des yeux, c'est-à-dire à peu près à 30 cm.
Et ça, c'est évidemment essentiel pour l'apprentissage essentiel. Qui va en découler. Et donc, vous le disiez, ils vont pouvoir acquérir un champ visuel et une vision
alors, telle l'acuité que l'adulte visuelle,
à un an à peu près.
Alors, le champ visuel ressemblera fortement à celui de l'adulte à l'âge d'un an. Pour ce qui est de l'acuité visuelle, elle va continuer à progresser, elle aussi. Et on peut doubler à peu près l'acuité visuelle au fur et à mesure du développement. À 3 mois, on aura 2 dixièmes. Ouais. À 6 mois, on aura à peu près 4 dixièmes, et ainsi de suite. Et on aura à peu près 10 dixièmes, oui, aux alentours de... un petit peu après un an, entre 1 an et 2 ans.
Sylvie Chocron, dans ce livre, d'ailleurs, vous expliquez que notre système de reconnaissance visuelle est tellement complexe que les personnes aveugles qui recouvrent la vue ont des difficultés particulières pour s'y habituer.
Alors c'est vrai, la vision nécessite un tel apprentissage que si l'on a la possibilité, c'est arrivé dans de rares cas de cécité, de redonner la vision à des personnes qui n'ont pas vu pendant des décennies, pendant une très longue période, réapprendre à voir constitue un effort trop important, et il y a eu des cas de patients qui ont demandé à ce qu'on leur retire à nouveau ce sens qu'ils ne savaient pas utiliser. C'est un petit peu, on pourrait donner cette image, c'est un petit peu chez le sujet voyant, comme si on vous donner du jour au lendemain à l'âge adulte la vision des infrarouges ou des ultraviolets, ou qu'on vous donnait l'audition des ultrasons. Vous vous retrouveriez avec des informations que vous ne savez pas traiter, dont vous ne sauriez pas quoi faire et qui seraient en quelque sorte parasitaires. Mmh. Et donc il faut voir la vision comme un apprentissage qui, s'il n'est pas fait, et je pense qu'on va en reparler, au début de la vie, sera difficile à acquérir.
Alors précisément chez le bébé, effectivement, quelle est l'importance de la vision dans son évolution?
Alors, je pense qu'on peut considérer que la vision constitue un socle pour les apprentissages, mais aussi pour le développement de la relation au monde extérieur, puisque chez le bébé qui ne se déplace pas encore, qui ne touche pas correctement encore, qui n'explore pas activement son environnement autrement que par la vision, les stimulations sont essentiellement visuelles, surtout à une période préverbale où il n'y a pas encore cette importance de l'audition et de l'échange verbal. Et donc le monde du bébé, les premiers jours, les premières semaines, est un monde visuel, avec des stimuli visuels qu'il va apprendre à reconnaître et auxquels il va donner un sens. Et toutes les mamans savent bien, et tous les papas aussi d'ailleurs, que la relation avec le bébé est avant tout visuelle et qu'il y a d'abord un temps de fixation de plus en plus long quand le bébé regarde un de ses parents, une attirance de plus en plus importante qui est déjà présente à la naissance pour un visage qui est devant le bébé et qui parle. On sait maintenant que ce qui attire le plus le bébé comme stimulus, c'est un visage, c'est-à-dire 2 yeux, une bouche qui parle, donc avec du mouvement et expressif. Donc, voilà ce qui constitue le stimulus idéal pour un bébé. Ouais.
Et il y en a beaucoup d'autres, hein, évidemment, pour susciter un apprentissage de l'enfant au travers de la vision. Donc, évidemment, la présence, la parole des parents. Qu'est-ce qu'on peut faire également pour stimuler un bébé?
Alors, on sait que visuellement, ce qui va stimuler le plus le bébé, ce sont des stimuli très contrastés, noirs et blancs. Et c'est pour ça que les bébés ont une attirance particulière pour les yeux dans le visage, très certainement aussi à cause de l'expression, à cause du mouvement, à cause de ce contact visuel très important d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relationnel, mais aussi à cause du contraste entre les yeux et le reste du visage. On sait bien sûr que les stimuli sonores vont être très utiles, mais on sait aussi de plus en plus qu'il faut avoir une certaine mesure et que il pourrait être nocif de trop stimuler les bébés in utero ou dès la naissance, parce que leur cerveau n'est pas non plus fait pour traiter un grand nombre de stimulations. Donc on sait qu'il faut des stimulations parce que la particularité du cerveau humain, c'est qu'il va se développer non seulement en fonction de son équipement génétique, mais aussi en fonction des stimulations extérieures. Mmh. Donc un cerveau normal chez un enfant qui ne serait pas du tout stimulé ne se développerait pas normalement.
Mais point trop n'en faut.
Mais exactement. Mmh. Mais on sait que s'il y a trop de stimulations, ça peut être aussi néfaste pour le bébé.
Alors cette consultation bébé qui vient d'ouvrir, Sylvie Chocron, c'est une première en France? Il n'en existait pas jusqu'alors?
Je ne m'avancerai pas pour dire que c'est une première. Il en existe peut-être, mais peut-être pas dans la même forme que celle que nous avons ouverte à la Fondation. Puisqu'à la Fondation Ophtalmologique Rothschild, on a maintenant une certaine expérience en clinique et en recherche sur les troubles neurovisuels d'origine centrale. Et devant justement les dégâts que pouvaient causer ces troubles-là chez l'enfant d'âge scolaire ou d'âge préscolaire, mon rêve depuis des années était de descendre vers des âges de plus en plus jeunes pour pouvoir dépister et prendre en charge le plus tôt possible des anomalies justement de l'analyse visuelle qui seraient dues à des lésions cérébrales chez le bébé et ne pas attendre, ce qui était déjà un gros progrès, ce qu'on avait ouvert déjà il y a quelques années, une consultation à l'âge de la maternelle, hein, entre 4 et 6 ans, avant le langage écrit. Donc ne pas attendre ce moment-là pour pouvoir dépister ces troubles et aider, éduquer ces bébés de manière adaptée.
Mais alors, qui sont les bébés qui viennent vous voir? Parce que c'est difficile de déceler un problème de vision chez le bébé, précisément.
Oui, vous avez tout à fait raison. Donc, ces bébés qui viennent nous voir, ce qui est remarquable, c'est que très souvent, ils viennent nous voir à la demande de leurs parents. Même si on fait beaucoup de formation et d'information auprès des professionnels, c'est vrai que cela reste difficile de dépister des troubles de l'analyse visuelle chez les bébés. Et on travaille d'ailleurs à la mise au point d'une batterie très simple de dépistage qui pourrait être proposée à des bébés qu'on appelle à risque. Donc effectivement, cette population de bébés à risque que l'on reçoit préférentiellement sont des bébés qui ont survécu à des accouchements très difficiles, donc avec des épisodes de détresse respiratoire ou une grande prématurité, ce qui va d'ailleurs souvent avec la présence de troubles respiratoires, ou toute autre atteinte cérébrale, qu'elle soit d'origine génétique, traumatique, ou liée à une asphyxie autour de la naissance. Et donc on sait que ces bébés ont un risque accru de développer des troubles neurovisuels, tout simplement parce que les aires visuelles cérébrales sont les premières irriguées dans l'ordre d'irrigation cérébrale et sont celles qui consomment le plus d'oxygène. Donc si un bébé souffre à un moment donné
d'un
manque d'oxygène, on sait que ses aires visuelles vont être touchées en premier. Et on sait maintenant que ces lésions des aires visuelles vont provoquer des difficultés à reconnaître, à analyser, à apprendre à voir. Et on sait par ailleurs que ces difficultés vont générer plus tard des difficultés relationnelles, des difficultés d'apprentissage, d'où l'intérêt de dépister ces troubles au plus tôt.
Sauf que, est-ce qu'on le dit aux parents, par exemple, lors d'un accouchement prématuré, est-ce qu'on dit aux parents, faites attention, il faudrait regarder ses yeux tout de suite?
Voilà, alors le problème, c'est qu'on est là face à deux attitudes possibles. Rassurer les parents, ce qui est absolument nécessaire, quand l'accouchement a été très difficile, qu'on a eu une séparation, par exemple, entre la mère et le nourrisson, parce qu'il y a eu une période de réanimation ou justement un épisode de privation en oxygène. Le traumatisme est important et donc, pendant très longtemps, on a considéré qu'il fallait absolument reconstruire une relation de bonne qualité entre la maman et l'enfant et qu'il fallait donc beaucoup rassurer les mamans. Mmh. Et le discours qui était tenu, c'était un discours très rassurant qui visait à expliquer aux mamans qu'on n'avait aucune donnée sur les conséquences de ces épisodes anoxiques et qu'après tout, il serait bien temps, quand l'enfant grandirait, d'observer des difficultés. Donc, on rassurait les parents et on les laissait attendre. Or, maintenant, c'est vrai qu'il faudrait qu'on se dirige vers plus de prévention et plus d'informations.
C'est pour ça que cette consultation existe pour les bébés. On en reparle avec vous, des courriels arrivent. On évoquera également l'autisme, qui est une autre piste de recherche tout à fait passionnante. Après, Charles Passy, Up to Us. Charles Passy dans cette tête au carré avec la neuropsychologue Sylvie Chocron pour parler des troubles de la vision chez l'enfant en particulier. On va parler aussi de troubles de la vision et d'autisme dans quelques minutes. Et puis donc cette consultation bébé qui vient tout juste d'ouvrir en cette rentrée à Rothschild. Et les questions des auditeurs qui arrivent, Sylvie Chocron sur franceinter.fr. Chantal nous demande ceci, si la vue est soumise à un apprentissage et qu'il s'agit d'une interprétation du cerveau, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, comment peut-on être sûr que nous voyons bien la réalité? C'est vrai, ouais, on peut se poser la question.
Alors Chantal, votre auditrice a tout à fait raison. Nous ne voyons déjà pas tous la même chose, parce que nos cerveaux sont différents et analysent la scène de manière différente, mais malgré tout, comme nous sommes équipés d'un système très comparable, notre perception est relativement invariante, homogène. Mais c'est vrai que le fait que l'on apprenne à voir, qu'on ne soit capable de voir que ce qu'on a appris à voir, donc par exemple, si je vous montre une image où des choses sont masquées, que je ne vous donne pas les clés tout de suite pour analyser cette image, vous ne verrez la totalité de cette image qu'après que je vous ai expliqué ce qu'il y avait à voir. Et les radiologues, par exemple, savent bien ça. C'est-à-dire qu'on apprend à rechercher des lésions particulières et si l'indication lorsqu'on fait une radio n'est pas assez précise, si le radiologue ne sait pas ce qu'il doit trouver, ce sera plus difficile pour lui de voir sur la radio ce qu'il est censé trouver comme lésion. Donc on apprend véritablement à voir et ceci explique aussi aussi. Pourquoi les témoignages, à la suite d'une scène qu'on a vécue, par exemple les témoignages de justice, hein, peuvent diverger, ou les portraits robots? Parce qu'effectivement, notre vision est une construction et non pas le miroir de la réalité extérieure.
Daniel demande ceci: comment l'hypermétropie peut-elle affecter le développement cognitif d'un enfant? Hypermétropie, dans ce cas, identifiée à l'âge de 6 ans, comment évolue-t-elle dans les années ensuite?
Alors, tous ces problèmes de réfraction, hein, myopie, hypermétropie, etc., effectivement vont affecter la qualité de l'image qui est envoyée au cerveau. Et par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, le système visuel, les voies visuelles et les aires cérébrales visuelles vont se développer en fonction de l'expérience visuelle. Donc si l'image qui arrive au cerveau est floue, bouge, n'est pas de bonne qualité, n'a pas la taille qu'elle devrait, etc., donc le cerveau, les aires visuelles cérébrales vont prendre l'habitude de travailler sur une image, sur un type de stimulus qui n'a pas la qualité qu'il devrait avoir, et leur développement va être affecté par cette distorsion qui provenait pourtant de l'œil. Et donc on sait maintenant que ce système visuel va se développer de 0 à 12 ans, donc il ne sera mature que vers 11-12 ans, et on sait qu'il y a une période critique pour le développement de ce système qui est entre 4 mois et, on va dire, 6 ans, avec un pic autour de 18 mois. Et donc si pendant cette période, entre 3-4 mois et 18 mois, le stimulus visuel n'est pas de bonne qualité, le système visuel ne va pas se développer comme il devrait. Et donc même si on corrige le trouble ophtalmologique après 18 mois, le cerveau, lui, s'est construit d'une façon qu'on ne peut pas modifier facilement. Donc on peut effectivement avoir des troubles de la compréhension de ce qu'on voit, ou de l'attention visuelle, de l'analyse, de la mémoire visuelle, qui peuvent ensuite avoir des répercussions sur les apprentissages, en particulier du langage écrit, à cause d'un problème ophtalmologique qui a été maltraité les premiers mois de la vie. D'où l'importance d'une consultation et d'une vérification donc ophtalmologique très tôt, et aussi dans des cas justement, on va dire à risque, entre guillemets, d'une évaluation vraiment de la fonction visuelle telle que cette consultation bébé que nous avons ouverte à la Fondation Rothschild.
Alors Emmanuel demande jusqu'à quel âge on peut rééduquer un enfant?
Alors on peut toujours rééduquer enfants et adultes. On sait maintenant, grâce aux travaux sur la plasticité cérébrale, que plus le déficit est d'origine cérébrale, plus on a plus la fenêtre est grande en quelque sorte pour la prise en charge, parce que le cerveau a cette extraordinaire capacité de réorganisation, et on sait maintenant que c'est valable jusqu'à des âges avancés de la vie, donc c'est très rassurant. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, c'est d'autant plus facile qu'on est proche du déficit.
Sylvie Chocron, puisqu'on parle de troubles de l'apprentissage, je vous propose d'écouter un reportage réalisé dans le laboratoire de Ghislaine Dehaene. Cette neuropédiatre de formation s'est intéressée au fonctionnement d'enfants qui présentaient des troubles, et elle s'est tournée vers les sciences cognitives. Donc aujourd'hui, elle dirige l'équipe neuroimagerie du développement à Neurospin. Et depuis 1995, son équipe travaille sur le développement cognitif du bébé. Et leur but est de comprendre quelles sont les capacités initiales de l'être humain et comment elles se développent grâce à la maturation du cerveau et aux stimulations de l'environnement. Au sein de ce laboratoire bébé, elle mène une recherche sur l'apprentissage du langage et la distinction des phonèmes. Et dans l'expérience que vous allez entendre, l'équipe utilise l'électroencéphalographie pour tester le petit Martin, âgé de 2 mois seulement.
Et toi, t'es déjà réveillé? Ah bah alors, faut pas qu'on tarde, hein. Il y a longtemps qu'il est réveillé?
Oui, il est quelle heure, là?
Ah ah!
Mais bon, ils dorment pas beaucoup hein, la journée. Donc ça,
ouais. Ça, j'ai toujours peur qu'au moment où on commence, ça soit tellement fatigant.
Faut pas qu'ils dorment.
Ben, si possible, ouais, c'est mieux. On préfère les avoir un petit peu attentifs quand même. Parce que je sais qu'on peut faire beaucoup de choses dans le sommeil. Mais enfin, on en fait quand même un peu plus quand on est réveillé et qu'on est intéressé. Hein, Chapounet? Comment tu t'appelles?
Martin.
Martin. Donc on va lui mettre un petit filet sur la tête, un petit filet où il y a des capteurs, et donc ces capteurs nous permettent d'enregistrer l'activité cérébrale. Hein, c'est juste un petit peu le même genre de capteur que ce que vous aviez pendant l'accouchement pour surveiller les contractions. Donc ça enregistre uniquement. Hein. Et donc là on les met sur la tête parce que c'est pas l'utérus qui nous intéresse, mais, mais le cerveau. Donc il y en a beaucoup, hein. Il y en a 128, mais on a un petit filet qui se met comme un petit bonnet en fait. Et donc, on va lui montrer, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va lui montrer des visages qui parlent, qui font des syllabes comme ba, be, bi. Et on veut savoir s'il est capable de s'apercevoir que quand on fait ba et bi, il y a le même son be au départ. Donc, est-ce qu'il est capable déjà d'analyser les syllabes et de récupérer les phonèmes? Les phonèmes, ce sont les constituants des syllabes. Pourquoi ça ? Bah parce que c'est important dans le langage d'avoir non seulement les voyelles, mais aussi d'avoir aussi les petits sons que sont les consonnes. Et qu'il y a beaucoup de théories qui disent qu'ils ne peuvent pas le faire avant beaucoup plus tard. Et donc on veut essayer de voir si vraiment c'est, c'est vrai ou pas. Et ça, ça serait aussi essentiel pour la lecture, hein, parce que d'arriver à décomposer la syllabe entre consonne et voyelle est quelque chose d'important pour apprendre à lire. Il me faut juste un crayon pour signer les papiers. Vous avez ça ? Ah. Alors, faudrait qu'il regarde là devant lui. C'est parfait. Oh, il a l'air intéressé. Alors, on va y aller. Ouais, ça vient. Excuse-moi, mais t'es le premier de cette nouvelle série. Alors, tu essuies les plâtres. Ouais, je me presse. Vé, je suis pas assez rapide, c'est ça? Tu rouspètes? Ouais, je te remets la dame. Elle te plaît, madame? Oh, regarde. Les Finlandais qui ont beaucoup travaillé sur une petite population homogène, ils ont essayé de regarder si on pouvait déjà prédire à la naissance si un enfant allait avoir des risques de dyslexie ou pas. Et donc ils ont enregistré avec les méthodes comme le EEG la réponse chez ces nouveau-nés à des syllabes, ba, da. Et puis si on fait ba, 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 da, est-ce que le cerveau va répondre à la différence? Et ils ont pu montrer que les enfants qui avaient une mauvaise réponse électrophysiologique, c'est-à-dire on ne voyait pas quand on passait de ba à da une réponse très nette, avaient plus de risques de troubles de la lecture que ceux qui avaient une réponse très nette. Une des critiques aussi, quand nous on regarde le cerveau, c'est de dire, ah oui, vous allez voir le cerveau, vous êtes déterministe et vous allez prédire que les enfants sont déjà prévus pour tel ou tel avenir. Mais pas du tout. Ce qu'on sait avec le cerveau, c'est que c'est un extraordinaire organe d'apprentissage. Donc, il suffit de savoir où va être la difficulté. Le cerveau peut contourner cette difficulté. Mais il ne faut pas nous l'envoyer dans le mur. C'est-à-dire, il ne faut pas, si on n'arrive pas à faire la différence entre ba et da, ça ne suffira pas de répéter ba, da, ba, da, ba, da. Il ne va jamais y arriver. Mais si on sait pourquoi il ne peut pas percevoir cette différence entre ba et da, on peut s'aider d'autres moyens et le cerveau va être capable d'apprendre ces autres stratégies pour lire. Simplement, ce n'est pas celle de tout le monde. Donc, ce qu'on voit, nous, avec ces machines, c'est, et chez l'enfant, c'est qu'en fait, il y a des voies qui sont les voies habituelles d'apprentissage. Par exemple, pour le langage, nous, ce qu'on voit en imagerie, c'est que, par exemple, c'est l'hémisphère gauche. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que des enfants qui ont des lésions très précoces de cet hémisphère, eh bien, ils apprennent avec l'autre côté.
Voilà, ça c'est la fameuse plasticité cérébrale dont vous parliez, Sylvie Chopron, tout à l'heure. Donc là, à l'instant, le reportage de Lucie Sarfati au laboratoire bébé de Ghislaine Dehaene. On l'entendait avec ce petit bébé de 2 mois tout à l'heure. Elle lui faisait entendre des sons, puis voir aussi des images. Hein. Ça, la vision joue beaucoup dans cet apprentissage.
On entend Ghislaine dire « regarde » au bébé qui entend des syllabes. Effectivement, on sait bien que la meilleure stimulation, c'est vraiment de la vision, du son, du mouvement. Un stimulus un peu multimodal qui contiendrait aussi donc une part visuelle.
Ouais, c'est un travail de recherche qui est très similaire au vôtre, au fond, hein, sur les problèmes d'apprentissage des enfants.
Alors, effectivement, le travail qui est fait dans le laboratoire de Ghislaine Dehaene porte vraiment sur l'activité cérébrale de bébés lorsqu'ils font des tâches cognitives. Et la consultation bébé que nous venons d'ouvrir, elle est très liée à notre expérience de recherche. Et elle vient d'ailleurs de la collaboration avec Arlette Strérier, qui travaille sur le développement normal du nourrisson, le développement cognitif. Et c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de partir des compétences du nouveau-né et de son organisation cérébrale telle que la recherche maintenant est capable de nous renseigner sur ses compétences et d'utiliser ses connaissances expérimentales pour ensuite aller chercher chez des bébés donc à risque un développement qui ne serait pas normal et qui pourrait du coup avoir des conséquences délétères sur tous les apprentissages, voire même sur la relation.
Comment les parents sont au courant de la nécessité d'aller consulter précisément maintenant votre service?
Alors, je pense qu'Internet a beaucoup modifié les pratiques, puisqu'on a, comme on a toujours eu, des bébés qui nous sont adressés par des spécialistes qui, donc, dès qu'ils ont connaissance d'une lésion potentielle ou d'un accident qui s'est produit et qui pourrait intéresser les arts visuels, nous adressent les bébés. Mm-hmm. Mais on a aussi maintenant un rôle très important, non seulement des médias comme les vôtres, pour l'information à ce sujet-là, mais aussi des forums de mamans, puisqu'une fois que les mamans sont venues consulter dans notre service, souvent elles témoignent sur des forums, et on a maintenant des parents qui nous emmènent leur bébé parce qu'ils ont eu des informations sur les forums de parents de bébés qui avaient des soucis.
Sylvie Chocron, vous restez avec nous, on parlera autisme dans un instant, toujours autour de ces troubles de l'apprentissage, autour de la vision, après Benjamin Biolay. Pas la forme, Benjamin Biolay.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. La tête.
Dernière partie de l'émission avec vous, Sylvie Chocron, neuropsychologue, et ses messages sur franceinter.fr. Marie nous demande ceci, votre invitée présente la vision comme un moyen indispensable au développement de l'enfant et de la personne ensuite, bien sûr. Comment font les enfants aveugles de naissance pour se développer, demande Marie.
Alors c'est une très bonne question qu'on nous pose souvent, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les enfants aveugles ont un sens en moins parce qu'ils ont vraiment une atteinte donc de l'organe qui reçoit les informations visuelles de l'œil, mais par contre, ils ont une aire cérébrale au chômage, puisque forcément, leurs yeux n'envoient pas d'informations au cerveau. Et donc, ces lobes occipitaux qui sont censés normalement recevoir les informations visuelles se trouvent un petit peu désœuvrés. Et du coup, plutôt que de rester au chômage, ils vont mettre en place un autre sens qu'ont les aveugles, qui s'appelle le toucher pour voir, ou cette capacité qu'ont les aveugles aussi de pouvoir analyser les mouvements de friction de l'air, c'est-à-dire qu'ils peuvent détecter quand quelqu'un passe à côté d'eux les mouvements de l'air, ce que nous analysons très mal. Et donc ces différentes fonctions de substitution vont venir se localiser, être traitées par les lobes occipitaux qui ne reçoivent plus d'informations visuelles et qui du coup vont permettre, par ce phénomène de réorganisation, une adaptation. C'est totalement différent des enfants qui ont une lésion de ces aires visuelles, mais qui continuent à recevoir des informations visuelles, parce que, d'une part, eux ne vivent pas dans le noir, ils reçoivent des informations, mais comme leur cerveau est lésé, et qu'il n'y a pas de place ailleurs pour pouvoir se réorganiser et donc suppléer à cette lésion, mais ils se retrouvent dans une situation où ils vivent dans un monde visuel qu'ils ne comprennent pas, ce qui est totalement différent des enfants qui ont une cécité.
En tout cas, on voit là encore un exemple d'adaptabilité du cerveau extraordinaire.
Bien sûr.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure qu'effectivement, des lésions du cerveau entraînaient donc des modifications sur la vision. Est-ce qu'à l'inverse, un problème de l'œil peut entraîner des changements au niveau cérébral?
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, il faut voir ce lien entre l'œil et le cerveau comme un lien vraiment dans les deux sens. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du développement, les informations qui arrivent de l'œil aident le cerveau à se développer, qui lui-même donne un sens à l'image que nous recevons sur l'œil. Et donc, de la même façon que une lésion cérébrale va gêner le sujet pour comprendre ce qu'il voit, de la même façon, une lésion de l'œil ou une mauvaise information en provenance de l'œil va empêcher le cerveau de se développer normalement. Et donc, je dirais que sans inquiéter les parents d'enfants qui ont eu des soucis ophtalmologiques, si un enfant a eu un souci important entre, on va dire, 0 et 4 ans, un souci visuel important, donc au sein de cette période qu'on appelle critique, qui est très importante pour le développement du système visuel, il faut surveiller la capacité qu'a cet enfant à faire attention à ce qu'il voit, à organiser l'espace, à s'orienter, à percevoir, à comprendre ce qu'il voit, à mémoriser ce qu'il voit, parce que les ophtalmologistes nous alertent souvent sur le fait qu'ils ont traité des enfants autour de la naissance, comme dans le cas de cataractes congénitales par exemple, ou de glaucomes congénitaux. Donc d'un point de vue ophtalmologique, le problème est réglé, mais par contre on voit survenir parfois des difficultés d'apprentissage au moment de l'apprentissage du langage écrit en particulier, autour de 6 ans, qu'on n'imaginait pas, mais qu'on aurait pu sans doute imaginer si on avait dépisté ces troubles-là plus tôt. D'où cette batterie de dépistage des troubles qu'on a mise au point et qui servira à évaluer la vision, la fonction visuelle des enfants en grande section de maternelle pour prévenir des troubles futurs de l'apprentissage.
Les consultations bébés, est-ce qu'elles vont se développer, Sylvie Chopron ?
Alors, c'est notre souhait, parce qu'à la Fondation Rothschild, notre vocation n'est pas de recevoir tous les bébés
de France.
Mais donc, on fait beaucoup d'informations, de formations d'autres centres en France. Et on va essayer de se fédérer avec différents services à Paris, mais également dans d'autres grandes villes, pour essayer justement de mettre au point une batterie de dépistage très rapide et très simple, qui pourra être proposée dans des services de néonatologie partout en France, ou dans des services justement où l'on suit les bébés à risque, pour que ces troubles-là puissent être dépistés partout, ailleurs qu'à la Fondation Rothschild aussi.
Alors pour terminer, j'aimerais qu'on parle vraiment de ces découvertes très importantes qui montrent justement que des anomalies visuelles pourraient être reliées à des troubles autistiques chez l'enfant. Ça, c'est vraiment un pan de recherche tout à fait passionnant, important. Est-ce qu'on estime aujourd'hui le pourcentage des enfants autistes qui justement auraient des problèmes visuels, ou c'est encore trop récent ?
Alors, c'est vrai qu'on est en train de découvrir depuis plusieurs années un lien complexe entre la perception visuelle et les signes autistiques, qui d'ailleurs se vérifie dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que beaucoup de patients autistes ont des anomalies de la perception visuelle, de l'exploration visuelle, des mouvements oculaires, de l'analyse visuelle, de la reconnaissance visuelle.
Oui.
Et on sait par ailleurs que les enfants qui ont des troubles neurovisuels ont un risque accru de développer des traits autistiques. Hein. Et c'est aussi une des raison qui nous a poussé à mettre en place cette consultation pour les bébés souffrant de troubles neurovisuels, c'est qu'on sait qu'un bébé qui interagit mal visuellement avec son environnement, qui ne reconnaît pas sa maman, qui ne peut pas imiter son sourire, qui ne comprend pas son sourire, qui ne reconnaît pas l'environnement extérieur, forcément va avoir des difficultés à établir une relation précoce avec son environnement. Donc on sait que ce lien se vérifie dans les deux sens. On n'a pas de données épidémiologiques encore, c'est ce à quoi on travaille pour savoir combien de patients autistes présentent des troubles neurovisuels. Par contre, ce qui est très informatif, c'est que dans plusieurs services en France, en Europe, aux États-Unis, on considère que l'anomalie du contact visuel est un signe pour dépister des sujets autistes. C'est-à-dire que c'est même, dans certaines équipes, le signe sur lequel on dépiste des sujets autistes. Donc, cette absence de contact, cette absence d'intérêt visuel, cette absence de relation visuelle chez les enfants.
Sauf que la cause visuelle a été ignorée pendant très longtemps.
Alors, je ne sais pas si on peut dire la cause visuelle, mais c'est vrai que d'un point de vue expérimental, il y a eu plusieurs travaux qui ont montré des anomalies dans la façon dont les autistes gèrent le monde visuel, avec une attirance particulière, par exemple, pour les détails, au détriment de la compréhension de la scène globale, ou bien des anomalies vraiment de l'intérêt visuel, c'est-à-dire qu'on sait que les autistes, lorsqu'ils regardent une personne, ils ne vont pas forcément regarder les yeux de cette personne, contrairement à des sujets sains. Donc on connaît tout un tas de comportements visuels particuliers. Ce qui reste difficile pour l'instant à comprendre, c'est le lien entre la perception et donc la possibilité de voir apparaître des traits autistiques. Et donc c'est ce à quoi on travaille. On a pris, je dirais, le problème un peu en sens inverse, c'est-à-dire qu'on a décidé de recevoir en consultation des sujets qui avaient été diagnostiqués autistes et qui avaient vraiment des anomalies du comportement visuel, et on a décidé d'essayer de leur apprendre à voir comme on le fait.
Et alors, est-ce que ça modifie l'état autistique ou pas?
Et voilà, la grande nouveauté, la grande découverte, c'est qu'effectivement on a vu disparaître des traits autistiques chez des sujets même âgés, hein, même d'une vingtaine d'années, qui avaient un comportement typiquement autistique et qui, en fait, avaient des troubles graves de la perception visuelle, du type cécité corticale, c'est-à-dire incapacité à traiter l'environnement visuel à cause d'une lésion cérébrale. Et dans la mesure où maintenant on sait apprendre à voir à ces sujets, on sait rééduquer ces troubles-là depuis quelques années, en particulier dans l'équipe dont je m'occupe, on a réussi à leur apprendre à voir, et on a vu disparaître en quelques mois les traits autistiques, y compris les troubles du comportement verbal, etc.
Jusqu'à quel âge on peut faire cette rééducation ?
Je dirais que pour l'instant, nous n'avons pas de limite. C'est-à-dire que
donc ça, c'est formidable.
On a des sujets au-delà de 20 ans chez qui ça a très bien fonctionné. Donc c'est très
mais
très
c'est
encourageant.
C'est un espoir fou pour un certain nombre de parents, j'imagine, parce que ce facteur, s'il existe au niveau du problème visuel, peut entraîner des modifications tout à fait importantes.
Alors, effectivement, c'est très encourageant pour tout le monde. Malgré tout, il existe certainement des limitations dans le sens où les patients que nous avons reçus à la Fondation nous ont été bien adressés et présentaient réellement des troubles neurovisuels qu'on pouvait prendre en charge. Donc je voudrais pas dire ici que tous les sujets autistes présentent au départ un trouble neurovisuel que nous pouvons rééduquer et qui va ainsi faire disparaître les traits autistiques. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Par contre, il y a certains cas où des troubles neurologiques ont généré des troubles neurovisuels qui eux-mêmes ont généré un autisme qui peut du coup régresser quand on va prendre en charge ces troubles neurovisuels.
D'où l'idée effectivement de pouvoir dépister très tôt, mais il y a quand même une prise en charge qui est possible ensuite et ça c'est tout à fait encourageant et passionnant. Merci beaucoup Sylvie Chocron pour ce dossier sur les troubles neurovisuels. Comment voyons-nous, entre autres, ce livre publié aux Petites Pommes du Savoir. D'autres vont arriver autour du bébé d'ailleurs, très prochainement.
Oui, normalement, début 2012 sortira Comment on voit les bébés.
Merci beaucoup à vous,
merci
à bientôt.
Merci à vous Mathieu.